L'invité du soir dans la belle antenne.
Apolline Bazin, bonjour.
Bonjour Anaël.
Alors Apolline Bazin, tu es l'autrice d'un tout nouveau livre, Drag Fever, sous les paillettes, toujours la rage, sorti le 20 février dernier aux éditions Divergence. Apolline Bazin, toi tu es journaliste, culture indépendante, et tu as découvert le drag à ton arrivée à Paris par la nuit et la fête. Pour toi, le drag, ça réunit tout ce qui te passionne, c'est-à-dire activisme, créativité visuelle, humour, histoire du genre et des sexualités. Avant de sortir ce tout nouveau livre, tu avais publié Drag, un art queer qui agite le monde en 2023. Mais aujourd'hui, on va parler de ce tout nouvel ouvrage. Mais bien sûr, pour parler de Drag Fever, on va revenir sur ton parcours. Je l'ai dit, toi, le drag, tu l'as découvert en arrivant à Paris. Est-ce que tu te souviens du tout premier souvenir de ta découverte du drag ?
Ah là là, merci pour cette présentation déjà. C'était il y a à peu près 10 ans, je pense, maintenant. Ça fait un peu moins de 10 ans, donc j'habite à Paris. Et comme tout souvenir, enfin comme beaucoup de souvenirs de sorties en soirée, c'est un souvenir un peu flou. Non, je dirais que oui, j'ai des souvenirs, mais je pense que c'est des recompositions. Moi, je pense que les premières drags que j'ai vues et les ambiances qui m'ont marquée, c'était à la Java. Entre Belleville et Goncourt, cette boîte où il y a eu pendant très longtemps une soirée qui s'appelle la House of Moda, et où chaque semaine il y avait un thème et donc des personnes qui s'essayaient à du travestissement, de la créature. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup beaucoup de choses. C'était des thèmes hyper drôles, montée des marches, brune latine contre blonde platine. Je ne sais plus, Bad Hair Day, il y avait vraiment des thèmes incroyables. Donc c'est un peu ça mes premières images. Puis il y a eu beaucoup de baby scene aussi à cet endroit-là. Donc pareil, des personnes qui sont après devenues des copines ou des gens que j'ai interviewés ont fait leur premier pas là.
Donc à ce moment-là, tu es encore étudiante, c'est ça hein ?
Oui, je suis arrivée à Paris pour faire mon M2 au CELSA et puis assez vite. Il y avait déjà en fait le premier média par lequel j'ai fait mes armes en tant que journaliste culture, Manifesto 21. Et la nuit a vraiment été un endroit de formation, un endroit hyper important pour nous tous, la bande qu'on était. Mais le drag, pendant longtemps, faisait partie du décor pour moi. J'ai d'abord plutôt découvert le pan musique, danse, liberté, enfin en fait découvrir aussi à quel point les nuits c'est un endroit, c'est un mode de rencontre, de structuration pour les communautés, les personnes queer. Il y a vraiment toujours un lien avec l'histoire, facile à faire. Et l'intérêt pour le drag, il s'est constitué un peu à mesure que la scène de gens qui avaient à peu près mon âge se constituait, puisqu'il y avait il y a eu un espèce de baby boom avant le confinement. Et des personnes, voilà, j'avais déjà entendu parler de Drag Race, mais j'ai regardé vraiment beaucoup plus tard. Par contre, voilà, il y a eu un livre qui a été traduit et qui racontait une partie de l'histoire du drag. Où moi, cette profondeur historique, référence culturelle m'a très vite intéressée parce que, par exemple, j'ai eu une période où j'adorais, ado, jeune adulte, Marilyn Monroe, et j'avais regardé certains Lame Show, qui est un de ses films cultes, et c'est un film où on a des personnages travestis dans une grande comédie populaire américaine qui a vraiment marqué les esprits. Donc ça connectait plein de points. En fait.
Le drag, tu l'as aussi découvert donc à travers ses premiers sujets pour Manifesto 21. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que Drag Fever, tu l'ouvres donc avec cette introduction autour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Le 26 juillet 2024, tu ne regardes pas cette cérémonie d'ouverture et puis tu es happé, intrigué par toutes les images que tu vois circuler sur les réseaux sociaux. tu la regardes. Bien sûr, c'est un spectacle magnifique, orchestré par Thomas Joly. Mais d'un côté, c'est clivant. En fait, il y a une partie du public qui, lui, n'est pas d'accord avec ça, trouve que voilà, le drag est devenu trop capitaliste à faire partie de ces cérémonies d'ouverture, de ces événements. Et donc, tu ouvres ce livre avec ça. Il y a 10 ans, tu couvrais tes premiers événements drag. Et là, aujourd'hui, tu écris un livre sur l'art du drag et tu l'ouvres sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Est-ce que le drag s'est capitalisé selon toi ?
Alors, en partie, après, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, elle raconte bien plus que ça. C'est un moment important parce que, toute la cérémonie fait plein de clins d'œil à d'autres éléments de culture queer qui sont glissés ou d'allusions à des sexualités non hétéro dans cette cérémonie, donc c'est vraiment marquant en termes de soft power, moment culturel, et puis on sort vraiment juste des législatives anticipées, donc moi je les JO ne m'intéressent pas, c'est vraiment une grande machine effectivement capitaliste qu'on déguise en enjeu national. Mais pour le coup, cette cérémonie quand même me touche quand je tombe dessus parce que ça crée des images fortes, parce que ça fait du bien. Mais les premières réactions, quand même, il faut préciser, c'est surtout les réactions de l'extrême droite et des sphères conservatrices mondiales. Et la réaction est extrêmement violente. Enfin, tous les artistes impliqués, Nicki Doll, Piche, Paloma, Barbara Butch, les plus connus, ont vraiment subi un cyberharcèlement extrêmement violent, Thomas Joly aussi, bien sûr. Donc la première réaction reste celle-là. Et justement, c'est le moment est intéressant pour les enjeux, les questions autour de « Ok, est-ce que le drag est devenu mainstream ? Est-ce qu'il a perdu de sa force de subversion ? Est-ce qu'il est toujours lié à, à la communauté qui le développe, qui le fait grandir ?» C'est vraiment à mettre en perspective avec ce moment de réaction mondiale. Parce qu'en fait, ce qu'on constate avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est que même le drag le plus raffiné, joli dans son travail esthétique dérange toujours, ça reste synonyme de sujet que les conservateurs ne veulent pas voir. Et c'est vraiment un peu, on est à un endroit où on est un peu pris entre deux feux. Parce qu'il est indéniable que justement ces formes-là, ces visages du drag sont ceux qui ont été privilégiés parce qu'ils sont populaires, ils sont connus, mais ils ont pu être rendus populaires parce qu'ils sont aussi, voilà, ils sont passés par l'émission. L'émission Drag Race existe depuis quasiment 20 ans aux États-Unis, c'est une institution, ça a permis de faire connaître le drag à une échelle mondiale, mais il y a aussi des standards de beauté très forts qui sont créés et au sein de public. Au sein d'une discipline qui est quand même assez, au sein de publics discriminés, d'une discipline qui reste quand même assez anarchique, ça crée des tensions énormes d'avoir cette institution de show business qui a des règles, voilà, des conventions de beauté en final assez conventionnelles. Donc c'était un bon moment, voilà, ouais, pour faire le point sur où on en était, parce que ça symbolise toujours. Ça permet de prendre la température des progressions, de la réelle compréhension ou acceptation de la société du drag et de ce qu'il peut véhiculer. Et en même temps, voilà, il y a un moment où effectivement, il faut peut-être relativiser la portée que peuvent avoir des grands événements. De la portée révolutionnaire que peuvent avoir ce genre de grands moments. Ça fait du bien, ça crée des images fortes et c'est le rôle de la culture de faire ça. Après, sur un point de militantisme, voilà, il y a beaucoup de choses à discuter. Apparaître à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques ne peut pas être une finalité. Ça rompt l'isolement peut-être pour des personnes qui voient ça pour la première fois chez elles. Ça ne veut pas dire que toutes les luttes LGBT sont finies parce que ça y est, le drag est à la télé par contre.
Et après cette introduction, justement, tu parles de l'origine de la scène drag. Alors, bien sûr, tu évoques les cabarets et petit à petit sa migration vers des endroits plus populaires aussi, comme les clubs. Aujourd'hui, c'est clair que le drag investit beaucoup de lieux, mais est-ce qu'il y a encore des endroits où le drag a du mal à trouver sa place? C'est clair qu'on évoque beaucoup la scène parisienne dans ce livre, mais en province, par exemple, est-ce que tu as aussi pris un peu la température dans d'autres régions de France, et est-ce que la scène drag est aussi populaire partout en France?
Oui, j'ai eu la chance avec le premier livre de être sollicité, faire un petit tour, de aller dans quelques endroits, notamment à Nîmes, qui est quand même une région, le Gard, très Rassemblement National. Et à Nîmes, on reste dans une ville, mais bon, voilà, on sort quand même de l'Île-de-France. À Nîmes, la création de la Marche des Fiertés est adossée à la création d'une maison drague, d'un collectif drague. Et ça joue vraiment un rôle pour renforcer les liens entre les personnes, créer des actions à cette échelle. Et les responsables de l'association que j'ai rencontrée décrivaient vraiment quelque chose de précieux qui manquait et qui permettait de créer du lien, de répondre à des éventuelles attaques, mais aussi créer des choses chouettes. Aujourd'hui on vit vraiment un moment intéressant, c'est-à-dire que quand on dit drag, visibilité, on pense à la partie divertissement, Drag Race, mais il y a vraiment un mouvement populaire effectivement d'ouverture de maisons, de collectifs partout en France, et ça c'est hyper réjouissant parce qu'en fait le meilleur moyen de comprendre pourquoi le drag c'est super, c'est d'aller voir près de chez soi, d'aller voir des personnes qui font, d'aller discuter avec ces personnes. Le drag c'est un moyen de partager des références culturelles et ça crée des liens, ça crée des complicités. Et ça c'est vraiment précieux quand on est dans un moment de fascisation comme celui qu'on vit. Et donc il y a du drag à peu près partout aujourd'hui sur le territoire. Je pense pas qu'il y ait de zones où il y ait des problèmes particuliers, dans le sens où bien sûr les artistes composent avec la réalité politique, géographique de leur région, mais en fait s'il y a bien un endroit où le drag est mis sous pression aujourd'hui, c'est typiquement dans les lectures de contes pour enfants. Et ça, il y a eu des attaques vraiment partout sur le territoire. Il y en a eu à Toulouse, il y en a eu en Bretagne, il y en a eu à Paris, il y en a eu à Lyon, beaucoup. Donc ça, le lien avec les enfants, ça pose toujours problème, parce que la droite, l'extrême droite américaine a décidé que c'était un combat prioritaire il y a quelques années, et que nos fachos de chez nous ont décidé de copier la recette. Donc c'est important d'emmener les enfants à des lectures de contes en drague. Il y a beaucoup de désinformation, mais c'est des moments super chouettes, juste de lecture par des personnes qui sont costumées et qui oui, par contre, c'est vrai, il faut le dire, lisent des contes qui vont pas véhiculer de stéréotypes de genre, qui vont peut-être dire que l'homosexualité et la transidentité existent. Il s'agit de convertir personne, mais juste de dire que les choses existent, parce que beaucoup de personnes ont manqué de cette information pendant très très longtemps. Je pense, pour répondre à ta question, où est-ce qu'on en est? Si on veut s'intéresser aux endroits où c'est un peu difficile, et l'étendue géographique du drag, il y en a partout. Par contre, il y a des endroits où il y a encore beaucoup de batailles à mener, notamment les Drag Story Hour. Je pense qu'aussi dans l'accès à des carrières artistiques, il va vraiment falloir voir comment tout ça s'inscrit dans la durée. Parce que là, c'est bien, il y a un moment de popularité et des personnes qui ont des choses super à proposer. Mais il faut voir à quel point justement les artistes arrivent à se faire une place dans les scènes culturelles sur le long terme.
Lors de l'écriture de ton premier livre en 2023, tu avais fait beaucoup d'interviews et tu expliquais ça parce que il manquait clairement de la matière, de la documentation sur ce sujet encore en France. Ici, dans Drag Fever, il y en a un petit peu moins. Est-ce que c'est un signe que la question de la documentation autour de l'art du drag est en train de s'épaissir et de devenir plus conséquente dans les bureaux de recherche et dans les rayons documentaires des bibliothèques françaises?
C'est une bonne question. Oui, c'est un fait. Il y a des travaux qui sont en cours et ça, c'est réjouissant. Il y a plusieurs thèses. Il y a un article du Parisien justement qui vraiment établit le fait qu'il y a plusieurs thèses en cours autour du drag, et ça, c'est hyper réjouissant. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'interview dans, dans Drag Fever. C'est tout simplement que c'est un autre format de livre, et c'est beaucoup plus de mes observations, de mes critiques, de mes analyses aussi. Donc j'ai fait des interviews avec quelques personnes, mais elles sont intégrées au texte. J'ai discuté avec Morphin Blaze, Armand Songe, qui est le drag king qui a écrit un mémoire sur les conditions de travail des artistes drag, donc précieux document. J'ai discuté avec, je suis relue et donc je discute régulièrement avec Babouchka Babouche, drag queen, femme politique et mannequin. J'ai discuté avec Garance Chainance aussi. Donc j'ai été chercher un peu des discussions pour affiner certains points. Mais disons que en fait, les endroits où il n'y a pas d'interview ou de prise de parole d'artistes apparentes, c'est pas qu'il n'y a pas eu de conversation, c'est aussi qu'il y a eu du off aussi à certains endroits. Et oui, c'est surtout que j'ai travaillé autrement. Je pense qu'il y a encore matière à vraiment. Je pense que dans le journalisme, justement, les angles sont souvent les mêmes, donc il y a vraiment matière à continuer de produire des choses intéressantes autour du drag, en particulier dans la presse. Je pense qu'il y a eu vraiment un moment où les rédactions ne savaient peut-être pas forcément comment aborder le sujet. Ça prend racine petit à petit. Et c'est bien de pouvoir essayer de se construire une culture au fur et à mesure que les choses s'inscrivent dans le paysage, quoi, de pas être justement que dans un angle toujours de raconter le parcours, pourquoi le coming out, tous les sujets très très basiques de vie LGBT dont il est important de parler, mais qui parfois écrase peut-être un peu la partie vraiment artisanat, art, proposition artistique et politique originale des artistes drag.
Ce que tu viens de citer là à l'instant, ce seraient les angles morts actuellement de la couverture médiatique du drag ?
Oui, je pense qu'effectivement il y a des angles morts parce que en fait ça recoupe des enjeux de qui sont les personnes qui sont en poste aujourd'hui dans des rédactions, qui sont les pigistes, et les personnes minorisées sont souvent plutôt à l'extérieur. Qui sont celles qui ont des savoir-faire, elles vont plutôt être à l'extérieur des rédactions. Et en interne, la pop culture est déjà, d'une manière générale, pas forcément toujours très bien traitée dans la presse française. Alors, en plus des pop cultures issues de marge, c'est tout un enjeu. Globalement, hein, ça va, mais juste, justement, ce serait bien de passer des caps, d'être un peu plus en finesse. Et puis, oui, je pense qu'un peu dans ces angles morts, il y a vraiment un enjeu qui est, ok, c'est super de faire émerger des artistes drag, de faire émerger du drag, mais maintenant, il y a peut-être aussi des moments où il faut pouvoir critiquer ce qui est produit honnêtement, c'est-à-dire... ces artistes rentrent dans des circuits et on est aussi en droit de les critiquer comme d'autres personnes, dire là c'était bien, là c'était pas bien, là c'est peut mieux faire. Aujourd'hui la couverture est très unanime et c'est très bien, mais je pense que c'est aussi parce que les personnes qui voient les spectacles, qui jugent ce que font beaucoup d'artistes drag n'ont pas les mêmes critères. Non pas les mêmes critères que moi je pourrais avoir, par exemple d'exigence ou de connaissance d'enjeux un peu plus profonds. Donc je pense qu'il y a un enjeu à le sujet, c'est de continuer à creuser, à respecter le travail qui est fait par des personnes justement qui bossent sur ces sujets. Je pense vraiment quand les rédactions font des articles sur une journée à l'atelier drag king, des choses comme ça. Il y a déjà eu plein de sujets comme ça fait. C'est super de le faire parce qu'il faut informer un maximum de monde et que la presse est aussi parfois répétée. Des fois, en tant qu'expert, donc quand on est sollicité et qu'on nous pose des questions auxquelles on a déjà répondu beaucoup, c'est un peu frustrant, et c'est pareil pour les artistes. Je pense qu'il y a la place pour plus de conversations. Et voilà, ma petite demande au paysage médiatique français.
Donc là, on parlait de documentation, de médiatisation. Ouais. Mais c'est vrai que pour raconter les récits, c'est mieux quand c'est raconté par les acteurs, actrices elles-mêmes. Donc là, on évoque le sujet des archives. Et justement, à ce sujet, dans ton livre, tu cites le sociologue Antoine Idier, qui estime que nous vivons à un moment historiographique particulier. Selon lui, le phénomène s'explique à la fois par un intérêt éditorial, ce qu'on vient d'évoquer, dû à la politisation des questions LGBT+, mais aussi d'une conscience accrue du caractère politique de l'écriture de l'histoire, car les histoires enfouies ne seront transmises par personne si on laisse aux autres le soin de s'en occuper. Est-ce que tous les entretiens que tu as pu faire avec les actrices de la scène drague française, ça a aussi été un moyen pour elles et eux de conscientiser leurs pratiques et parfois peut-être de leur donner l'envie de se raconter par elles-mêmes?
Pas tant, je pense. Je pense que oui, les conversations, ça permet d'objectiver parfois certains phénomènes, des choses comme ça, parce que c'est le rôle, nous, de journalistes, de tiers médiateurs, c'est de dire « Ah, tiens, moi j'observe ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Enfin, c'est ça, quand le journalisme est bien fait, ou la programmation, tout ça. On a des conversations où, l'analyse finale, c'est la co-construction, c'est une co-construction, c'est les discussions qu'on a eues avec des personnes. Je pense pas que ça ait vraiment poussé à des envies de se raconter soi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on tend une oreille attentive et qualitative aux personnes pour qui toute leur vie, il y a une vraie reconnaissance, en tout cas un vrai échange qui se crée. Mais les artistes de drag se racontent beaucoup par leur performance, en fait. Donc c'est aussi vraiment comprendre qui sont les artistes, qui sont les gens, c'est aussi se déplacer, regarder les performances, les décrypter, vraiment prendre ça au sérieux en fait, tout simplement. Mais voilà, je pense pas que ça ait déclenché d'envie particulière. Juste, c'est encourageant aussi d'avoir des bonnes conversations avec des personnes extérieures, je pense, pour les artistes, mais comme dans toute scène artistique.
En 2023, tu concluais ton livre « Drag, un art queer qui agite le monde » avec cette phrase « Pour tant de personnes queer, cet art de drag est une réponse créative et joyeuse à la violence du monde. Leur capacité à sublimer tant des histoires terribles est l'une des plus belles choses que l'on puisse voir. C'est un pouvoir magique. » 3 ans plus tard, tu termines ton nouveau livre sur le drag avec une partie intitulée « Pour des existences pleinement magiques ». Alors cet adjectif, tu sembles vraiment l'aimer, Apolline. Est-ce que c'est avec ce mot que tu définirais la scène drag magique ?
En partie, clairement. C'est marrant parce que moi, je l'utilise sans avoir, par exemple, de pratiques spirituelles ou très peu de connaissances en la matière. Mais en fait, bon, voilà, j'ai été passionnée de fantastique plus jeune, je pense que ça fait toujours, la magie, ça fait toujours un peu écho à des parties de nous, enfants, et des choses très libres, très, très heureuses. Et en fait, quand on y réfléchit de manière concrète, la magie, généralement, c'est transformer quelque chose, faire passer d'un état à un autre. Et ça, le drag a le pouvoir de, c'est la culture aussi a ce pouvoir-là d'une manière générale, de changer notre humeur, changer notre perception des choses, peut-être changer notre relation à des sujets, à des personnes. Mais très concrètement aussi, moi, ce que je trouve incroyable dans le drag, c'est à quel point justement il y a des personnes qui peuvent se révéler. S'épanouir, à quel point ça peut aussi être un déclencheur de solidarité, de créativité. Et c'est en ça, effectivement, que j'emploie le mot magie, parce qu'en fait, c'est ça a à voir avec le fait de pouvoir agir concrètement, de voir qu'on est capable de modifier même des petites choses, mais enfin voilà, on commence par modifier des petites choses autour de soi pour essayer de changer un peu le monde en général. Et ça, ouais, c'est des pensées qui sont réjouissantes et importantes.
Merci beaucoup Apolline Bazin. Et avant de te poser une dernière question, on rappelle que donc Drag Fever, Sous les paillettes, toujours la rage, ton nouveau livre publié aux éditions Divergence est disponible en librairie. Tu y évoques donc l'origine de la scène drag, tu interroges ce phénomène culturel, enfin du moins cet art devenu un véritable phénomène culturel. Tu questionnes voilà le star system, est-ce que c'est un star system comme un autre? Et puis tu évoques bien sûr cette joie collective qui est essentielle au combat. Mais donc, dernière question, puisque tu l'as sous-titré Sous les paillettes, toujours la rage. On est à quel degré de rage aujourd'hui dans la scène drag? Les scènes brûlent comment?
Aïe, aïe, aïe. Toutes les scènes ne brûlent pas pareil. C'est ça, une partie de la réponse, c'est qu'on est à un stade où justement, il n'y a pas une scène drag. Je ne suis pas sûre qu'il n'y en ait jamais eu un espace unitaire non plus, mais voilà, en particulier aujourd'hui, on a plusieurs espaces avec des propos différents, avec des publics différents. Et du coup, le niveau d'intensité de colère ou de d'inquiétude n'est pas toujours le même partout. Mais d'une manière générale, il y a quand même voilà, beaucoup de... Je pense que ce qui brûle, c'est l'inquiétude. Après, les personnes qui sont en rage sont généralement les personnes qui sont... qui sont les plus politisés ou qui sont dans une forme de voilà de conscientisation de qu'est-ce que ça des mécanismes de domination que elles subissent. Donc il y a beaucoup de rage à plein d'endroits, il y a des endroits où ça ferait bien de s'énerver un petit peu plus et de jouer collectif. Je pense que ça fait partie des réalités aussi actuellement et des discussions et de choses qui agitent les communautés d'artistes, ces différents accordements avec la colère et l'action politique.
Une réponse sans spoil, mais qui invite donc à lire en entier cet ouvrage, Drag Fever, Sous les paillettes, toujours la rage, publié aux éditions Divergence et donc disponible en librairie. Merci beaucoup Apolline Bazin pour cette interview et on invite tout le monde à suivre également ton travail de journaliste au sein de ton tout nouveau média Problématique.
Merci beaucoup. Oui, tout le monde n'est pas queer, mais tout le monde peut être problématique, donc lisez-nous.
Merci beaucoup.
Merci à toi.